Panorama Économique.
Bonjour messieurs, dames, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de ce numéro de Panorama Économique sur votre radio. Les titres avant de commencer. Panorama Économique revient sur l'atelier sur la protection des biens et de l'État et des entreprises du portefeuille transformé en société commerciale. Les participants ont formulé des recommandations et examiné un projet de loi quant à ce. Il faut améliorer les performances de la régie des voies fluviales pour une bonne navigabilité en RDC. C'est dans ce souci que la cellule d'exécution du projet de transport multimodal financé par la Banque mondiale a organisé mardi à Kinshasa un atelier de validation de l'étude sur la réforme de cet établissement public. Voilà tout pour le titre de ce numéro de Panorama, Panorama économique qui reçoit le professeur Massamba. Il est président de la commission nationale OADA RDC. C'est avec lui que nous allons analyser et commenter l'actualité de la semaine. Monsieur le professeur, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour, merci.
Panorama Économique, le dossier.
Et nous allons ouvrir cette émission par la clôture le samedi de la semaine dernière à Kinshasa de l'atelier sur la protection des biens et droits de l'État ainsi que des entreprises publiques transformées.
Les mandataires des entreprises, les professeurs d'université, parlementaires, experts du gouvernement répartis en trois ateliers ont réfléchi pendant deux jours et ont proposé une gamme variée de recommandations pour sauver le patrimoine de l'État menacé de spoliation. Un projet des lois définissant le bien et droit de l'État qui ne peuvent être saisis a été également examiné. Je vous rafraîchis donc la mémoire avec ce dossier de Daniel Taminzoni et Mary Bukassa. C'était donc lundi.
Des recommandations, en tout cas, il y en a eu plusieurs. Si je peux en citer quelques-unes, les séminaristes ont proposé au gouvernement congolais de finaliser le processus de transformation des entreprises, définir le patrimoine de chacune d'elles. L'État doit aussi payer sa dette vis-à-vis de ces entreprises. Pour certains experts à cet atelier, il faut ériger un marché financier national pour permettre aux entreprises de lever des capitaux afin de devenir elles aussi compétitives. Il faut reformer l'administration en procédant au recrutement par appel d'offres, ont-ils dit.
Mais pour quelle raison organiser aujourd'hui un atelier de protection? Sent-on un danger venir?
Danger, oui, Mireille. En interne, d'abord, il faut dire que les agents de l'administration publique, entendez par là, les conservateurs de titres fonciers et immobiliers, les cadastres, les forces de l'armée, de la police et des services de sécurité et même des tierces personnes, sont identifiés en RDC comme ceux qui veulent déposséder l'État de ces immeubles qui sont répartis à travers le territoire national. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, Mireille, c'est avec l'adhésion de la RDC à l'OADA. Rappelez-vous que les entreprises du portefeuille qui sont transformées en sociétés commerciales connaissent aujourd'hui un surendettement et les créanciers n'attendent qu'avec la loi OADA pour se saisir des biens de ces entreprises. C'est donc par cette crainte de perdre ces biens que le ministère du portefeuille a organisé cet atelier dont le but était d'arriver à examiner le projet de loi qui devrait définir clairement les biens qui ne peuvent pas être saisis, quelles que soient les circonstances.
Toutefois, Daniel, une question m'intrigue quand même. En principe, c'est l'État qui protège ses biens et même ceux des particuliers. Mais là, nous sommes face à une situation où l'État lance carrément un SOS. De qui a-t-il peur et qui peut mieux protéger les biens de l'État si ce n'est l'État lui-même?
Qui peut bien protéger les biens de l'État? Eh bien, c'est la question que beaucoup de Congolais qui ont suivi cet atelier se sont posés. Lorsque l'État lui-même ne sait pas se protéger, puisque c'est lui qui gère, alors on se pose la question qui protégera mieux les biens de l'État que l'État lui-même. Voilà, Panorama Économique dans ce studio reçoit le professeur Massamba. Il est le président de la commission nationale OADA RDC et pour des analyses et commentaires, monsieur le professeur, encore une fois bonjour. Vous avez suivi ce premier dossier, la protection des biens de l'État et des entreprises transformées. Vous aviez été acteur actif dans cet atelier. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Et s'il faut revenir à cette question qui termine la converse, pourquoi sent-on un danger venir et on veut protéger les biens de l'État et des entreprises?
Oui, moi je dirais qu'il y a peut-être des raisons internes. Ça fait des années qu'on parle des biens de l'État, des biens qui sont spoliés, des droits de l'État. Nous sommes aussi exposés à un certain nombre de pratiques d'un certain nombre de personnes ou de groupes. Vous savez qu'on parle de fonds vautours, etc. Donc, il y a effectivement besoin de renforcer la protection des biens et droits de l'État et de songer également aux entreprises publiques qui sont en restructuration.
Mais qui doit bien faire cette protection?
Oui, là, c'est clair que l'État a les moyens de se protéger, mais l'État ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut de la méthode, il faut des textes, et c'est l'objet de l'atelier. Regardant ce que l'OADA apporte, notamment en termes d'immunité et d'insaisissabilité, parce que le droit OADA, en particulier l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, pose un principe clair. Les biens des personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution ne peuvent pas être saisis. Ça, c'est le principe du droit OADA. Eh bien, quelles sont ces personnes? D'abord, c'est l'État. Le droit OADA n'invente pas. Ça a toujours été ainsi, même en droit congolais et dans d'autres pays aussi. Mais il faut savoir distinguer ces biens. Il y a les biens du domaine public, les biens du domaine privé. Quelle que soit la nature des dix biens pour l'État et ses démembrements, les provinces notamment, il est clair qu'on ne peut pas saisir ces biens. Mais le droit OADA étend cette protection aux entreprises publiques. Quand je dis le droit OADA, c'est l'acte uniforme, c'est aussi la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est très protectrice, certains pensent trop protectrice, pas tellement pour l'État. Là, c'est acquis, mais aussi pour les entreprises publiques du secteur marchand. Pour les établissements publics, pour les services publics, pour l'État et ses démembrements, il n'y a aucun problème. La protection est acquise. Ça fait partie des traditions, des règles du droit depuis toujours. Mais la question se pose pour les entreprises publiques commerciales du secteur marchand. Il faut distinguer en temps normal. Il ne serait pas normal qu'on leur accorde une telle extension de l'immunité d'exécution, mais l'OADA le leur donne. Bon, on prend acte, mais ce n'est pas tout à fait juste par rapport aux autres opérateurs économiques. Mais par contre, même pour ces entreprises, en temps spécial, comme c'est le cas pour les 20 entreprises ici au Congo, en temps spécial, c'est-à-dire en phase de restructuration, telle qu'instituée par une loi, et chez nous, c'est la loi de 2008, du 7 juillet 2008, telle que complétée par une loi du 31 décembre 2012, qui crée un véritable régime de la restructuration des 10 entreprises, cela justifie une mesure particulière. Je dirais du point de vue de la conscience, nous sommes à l'aise, mais c'est surtout pour un temps limité, pour que les entreprises se redressent. Mais il faut savoir quand même que, d'une manière générale, un, l'OADA donne une belle protection. Deux, cette protection est très justifiée pour un temps limité, particulièrement pour des entreprises en restructuration comme pour les nôtres. Mais il faut savoir qu'un jour, la jurisprudence et la loi de l'OADA changera parce qu'il y aura sans doute la pression du secteur privé et il faut se préparer à cette phase-là et donc se redresser entre-temps.
Et puisque vous parlez déjà de l'OADA, professeur, si on peut déjà y entrer de plein pied, ça fait un bon bout de temps qu'on parle de l'adhésion de la RDC à l'OADA. Qu'en est-il aujourd'hui effectivement et qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit être fait?
Bon, il faut d'abord dire que beaucoup de choses ont changé. Donc la loi OADA l'emporte sur les lois internes dans les matières régies par l'OADA. C'est essentiellement le droit des affaires, les règles de droit qui concernent les entreprises. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ça concerne le commerçant, personne physique, la société. Ça concerne le droit des sûretés, beaucoup plus de garanties, donc beaucoup plus de chances de financement de la part des banques, beaucoup plus de transparence et de publicité à cet égard. Ça concerne l'arbitrage, ça concerne la justice, les litiges du droit. Droit des affaires au premier degré relève de nos tribunaux et au niveau de la cour d'appel c'est toujours la compétence de nos tribunaux, mais au niveau suprême, au niveau de cassation, ce n'est plus la cour suprême de justice, c'est la cour commune de justice et d'arbitrage qui a son siège à Abidjan mais qui peut circuler, qui était venu d'ailleurs ici à Kinshasa. Donc c'est quand même pas mal de changements, mais ce qui est très important au jour d'aujourd'hui, c'est de dire d'abord que il y a quand même un résultat. Tout n'est pas perceptible, le pays étant un véritable continent, mais il y a des des choses qui se sont passées un peu partout, à Beni, à Mbandaka, à Kindu, à Goma, à Boma, Kinshasa, Lubumbashi, et qui continuent. Ce sont des formations que nous assurons. Mais il y a également pas mal d'autres réalisations. L'État a vraiment marqué pas mal de points. Le Congo s'est montré exemplaire dans l'espace OADA en payant sa cotisation le premier l'année dernière. Étions les tout premiers pays, le premier pays de l'OADA en 2013 à payer la cotisation. Les autres pays de l'OADA constatent qu'il y a un dynamisme très fort dans la mise en œuvre de l'OADA ici au Congo. Je rentre moi-même il y a à peine une semaine de Conakry où j'avais été invité pour partager l'expérience congolaise dans le dynamisme de la mise en œuvre de l'OADA pour que les autres aussi puissent en profiter. Mais il y a donc des formations qui ont été données par-ci, par-là, des ouvrages qui ont été distribués. C'était insuffisant, mais nous continuons. La Commission nationale OADA a été mise en place. Elle travaille avec un appui très fort de l'État. Il n'y a pas que des bailleurs de fonds qui nous soutiennent. Il y a un budget qui a été accepté. Je dirais presque tout ce que nous demandons à l'État nous est accordé. Et on nous suit de près à tous les niveaux.
Donc c'est que c'est seulement l'État qui est concerné par le changement qu'apporte l'OADA.
Non. Les entreprises sont, je dirais, les premières à être concernées. Les praticiens du droit, de la comptabilité, beaucoup de choses ont changé. C'est pas que le droit, il y a aussi la comptabilité. Mais je voudrais insister surtout que depuis le 12 septembre 2012, nous avons commencé à appliquer le droit OADA et une période d'harmonisation des statuts a été accordée aux sociétés en disant, écoutez, vous avez 2 ans pour harmoniser, corriger, adapter vos statuts au nouveau système. Je voudrais insister sur le fait que la période transitoire expire dans 5 mois, le 12 septembre 2014. Donc, au lendemain de cette date, il ne devra plus y avoir au Congo de statuts anciens. Il doit y avoir maintenant des statuts de société conformes au droit OADA. Deuxièmement, on parle souvent des sociétés. Et là, il faut, mais alors, vraiment insister. Les commerçants, personnes physiques, sont concernés. Parce que, au lendemain du 12 septembre 2014, il n'y aura plus en RDC de NRC. Il n'y aura plus de nouveau registre du commerce. Il est remplacé par le registre du commerce et du crédit mobilier, le RCCM. Ça ne concerne pas que les sociétés. Ça concerne aussi les commerçants personnes physiques qui doivent se rendre en particulier au guichet unique pour demander à obtenir un numéro du RCCM, je répète, registre du commerce et du crédit immobilier, et ça se donne gratuitement. Donc il faut le faire parce que sinon on sera en contravention par rapport à la loi le 13 septembre de cette année.
Ce que vous dites est très important et ça mérite qu'on insiste là-dessus, professeur, c'est-à-dire à partir du 12 septembre 2014. Le RNC, ça veut dire le nouveau registre de commerce en République démocratique du Congo va disparaître au profit du numéro que l'OADA va attribuer, c'est ça?
Qu'on appelle le registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM, qu'on obtient auprès du guichet unique ou des
tout commerçant qui détenait un RNC,
NRC
doit aller chercher
un RCCM parce que son NRC ne sera plus valable au lendemain du 12 octobre 2014.
Et vous dites que ce document est donné gratuitement.
Gratuitement.
Ici, en RDC, on le trouve où vous avez parlé
Le guichet unique à Kinshasa, où les correspondants du guichet unique, c'est-à-dire en province, les greffes des tribunaux de commerce, et là où il n'y a pas le tribunal de commerce, ce sont les greffes
Il y a guichet unique de la DGDA, il y a guichet unique de création des entreprises.
Guichet unique de création des entreprises.
Ok, voilà, l'adresse est bien notée. À moins que vous ayez un autre message à passer par rapport à l'OADA avant de passer à la suite de notre émission.
Bon, peut-être pour éviter aussi que les gens s'affolent en ce qui concerne les sociétés, puisqu'il y a pas mal de documents qui circulent, pas mal de questions qui se posent. Qu'est-ce qui se passera pour les sociétés qui n'auront pas harmonisé les statuts, qui resteront avec les statuts anciens? La règle est simple, elles ne vont pas disparaître automatiquement, sauf si leur capital est trop faible par rapport au minimum requis par l'OADA, notamment pour les anciennes SPRL, si elles ont un capital de moins de 2 000 $. Là, c'est clair qu'elles vont disparaître. Encore qu'elles pourraient ne pas disparaître si elles se transforment en une autre forme de société où il n'y a pas de minimum de capital, par exemple en société en commandite simple ou en société en nom collectif. Mais le principe qu'il faut retenir, c'est que les clauses des statuts qui ne sont pas conformes à l'OADA sont réputées non écrites. Et les nouvelles dispositions, celles du droit OADA, remplace cette clause-là et entre en application. La société peut survivre, mais ce qui est écrit, certains mots n'auront plus de sens ou de signification et seront automatiquement remplacés par les textes de loi. Beaucoup de statuts aussi le prévoient d'ailleurs. Il ne suffit pas, il faut pas croire que chaque fois qu'une loi va changer, il faudra toujours refaire les statuts. Il y a parfois des, comment dirais-je, il y a une stabilisation automatique qui est organisée par les statuts, qui est organisée aussi par le droit au WADA, en particulier l'article 913, je dis ça pour les juristes qui nous suivent, de l'acte uniforme qui régit les sociétés commerciales. Égard.
Oui, professeur, mais on sent que, à vous entendre parler, cela n'a pas d'incidence. En tout cas,
véritablement, c'est une amélioration.
Alors pourquoi il faudrait... Pourquoi il faudrait changer alors que cela n'a pas tellement d'incidence sur les sociétés?
Oui, oui. Il y a deux incidences possibles. Par exemple, avant, je dirais, mai 2014, ce qui est prévu, c'est que dans un conseil d'administration, il faut que deux administrateurs sur trois, au moins, soient actionnaires. Maintenant, c'est supprimé. Vous pouvez l'exiger vous-même, vous n'êtes plus obligé. Donc, le fait de rendre quelque chose facultatif, qui avait été obligatoire.
Mm-hmm. C'est déjà quelque chose.
Oui. Mais vous, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le changer. Donc je veux dire qu'on a des dispositions qui étaient obligatoires, qui deviennent facultatives maintenant, quelques-unes, hein, deux, trois comme ça. Peut-être que ça peut amener certains à se dire, tiens, on aimerait bien changer dans la liberté qui nous est reconnue. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de contraintes qui pourraient amener une société à considérer qu'elle est bloquée. Dernière chose sur cette seconde harmonisation, possible, mais très rare. Ceux qui voudront faire ces quelques corrections disposeront de 2 ans à partir du 5 mai jusqu'à 2016. Mais c'est seulement cette hypothèse minime et rare parce que des bruits courts donnent à penser que tout le monde doit changer beaucoup de choses. Non, non. Et ceux d'entre nous, les entreprises du Congo qui n'ont pas encore harmonisé leur statut, eh bien celles-là qui, après le 5 septembre, voudront harmoniser, devront tenir compte évidemment du nouveau texte. Mais attention, tout doit se faire avant au plus tard le 12 septembre 2014. Excepté les petites adaptations supplémentaires par rapport au nouveau texte, mais il ne doit pas y avoir de statut ancien de droit congolais au lendemain du 12 septembre 2014.
Professeur Massamba, nous vous gardons pour la suite de Panorama économique. Deuxième dossier, la cellule d'exécution du projet de transport multimodal tient à améliorer les performances de la régie des voies fluviales pour une bonne navigabilité en RDC.
Le CPTM, financé par la Banque mondiale, a organisé mardi à Kinshasa un atelier de validation de l'étude sur la réforme de cet établissement public. L'étude, menée sur demande du gouvernement, est partie des difficultés que connaît la RVF pour bien fonctionner suite au manque de ressources. Déjà, la CPTM s'engage à aider au balisage sur plusieurs rivières navigables du pays dans le bief supérieur pour un financement de près de 2 500 000 dollars. Barnabé Bemba est le coordonnateur d'intérim de la CPTM.
Les voies fluviales sont indispensables pour le développement économique de notre pays. C'est l'épine dorsale pour le transport multimodal et la RVF connaît une situation très difficile. À maintes reprises, nous avons eu des réunions avec les armateurs qui se plaignent de voies de navigation. Donc il était temps qu'on trouve des solutions pour résoudre les problèmes de navigation avec sécurité. Pour aider aussi la RVF, le gouvernement, à travers ses partenaires, notamment la Banque mondiale, finance également la mise en place d'un fonds d'entretien des voies navigables. Parce que le gouvernement seul aura difficile à pouvoir soutenir la RVF. La CPTM, par le financement de la Banque mondiale, va prendre 2 rivières à l'équateur, du moins sur le financement original. Donc il y a les rivières Loua et Mongala. Là, on est encore au niveau des études, mais je crois qu'on va être autour de 2 millions, 2 500 000 pour les 2 rivières d'Équateur, pour les biefs supérieurs également. De là-bas, les tronçons Bukama-Kongolo et Kindu-Bundu. Mais dans les financements additionnels de PTM, nous allons encore prendre d'autres rivières, d'autres affluents, d'autres cours d'eau au niveau du bief moyen, voire réhabiliter le balisage. Nous espérons d'ici novembre commencer les travaux sur les rivières Lou et Mongala et probablement à partir de juillet commencer les travaux sur les tronçons Bukama-Kongolo, Kindu-Bundu, de là-bas.
Et l'Union européenne qui octroie 60 millions d'euros pour la réhabilitation de voies fluviales et lacustres en RDC dans le cadre de son projet d'appui à la navigabilité. Elle s'investit déjà dans les travaux de balisage sur le fleuve Congo et la rivière Kasaï. Le coordonnateur de ce projet a indiqué à Radio Capi cette semaine que l'idée c'est de mettre de manière fonctionnelle les voies d'eau en RDC dans un état de navigabilité opportun. Professeur, vous avez un commentaire placé par rapport au balisage du fleuve Congo et de ses biefs?
Bon, je dirais simplement que ce que ça m'inspire, ce sujet-là, c'est que nous sommes des enfants gâtés et que ce pays est véritablement béni. On parle des infrastructures routières, des routes, je dirais, excusez-moi l'expression terrestre. Je ne sais pas s'il y a, deux pays qui disposent d'autant de routes, je dirais, fluviales et lacustres que le nôtre. Il faudrait bien développer cet aspect des choses. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en exploitant le fleuve et tout ce qu'on a comme lac et dont nous en vit, je dirais, les peuples de la terre entière.
Et rapidement, le troisième dossier avec vous, François Kadima.
Les batteries sont mises en marche pour l'élaboration du rapport Doing Business 2015. Les experts de la Banque mondiale avaient jusqu'au 31 mars pour boucler les consultations relatives à la rédaction de ce document sur les facilités d'affaires en RDC. Mais déjà, de l'avis des experts et même au comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, le scepticisme s'élit sur les visages et même dans les discours. Reportage.
La crainte du CPCAI serait de voir la RDC faire le statu quo sur la prochaine publication Doing Business 2015 de la Banque mondiale. Des réformes ont certes été engagées, mais elles ont connu un coup fatal avec l'annonce en octobre 2013 par le chef de l'État de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Le gouvernement en place, réputé démissionnaire, ne gère que les affaires courantes et ne peut à fond engager l'État. Cette incertitude depuis le dernier trimestre de l'année dernière a même entraîné l'arrêt de certaines réformes entreprises avant cette annonce et qui demandaient une forte implication de l'État. La longue attente du gouvernement de cohésion nationale ne jouerait pas en faveur de la RDC dans le classement Doing Business 2015 de la Banque mondiale. Et si nous devons rappeler quelque chose, la RDC a obtenu de mauvaises notes en 2014, entre autres, en ce qui concerne la création d'entreprises, la connexion à l'électricité, l'octroi des permis de construire et le transfert de propriété.
Panorama économique sur Radio Okapi, le Doing Business 2015, les consultations sont presque terminées. On passe à l'élaboration, professeur, ça vous intéresse, le climat des affaires en RDC?
Oui, absolument, en tant que président de la Commission nationale de WADA, parce que c'est vrai, on a bien fait de citer le CEFCAI qui est véritablement, qui a cette mission-là de se battre sur ce terrain-là, mais il y a d'autres instances, hein, comme chez UNIC, la Commission nationale de WADA, qui ont aussi Doing Business comme, je dirais, cible de tous les jours. Et bon, moi, peut-être parce que je suis optimiste par nature, j'ai été très attristé l'année dernière par les résultats donnés, mais je crois que les explications ont été données. Peut-être il n'y a pas que ça, mais souvent les évaluations se font à un moment où on ne peut plus enregistrer un certain nombre de résultats, voilà. Je dirais, tout frais. Mais je crois que depuis lors, beaucoup de progrès ont été réalisés. Mais il y a parfois des obstacles. Hein. Donc on peut créer une entreprise en 3 jours. Mm-hmm. On devrait d'ailleurs pouvoir créer même en 1 jour. Je pense qu'on va y arriver. Mm-hmm. Mais on crée l'entreprise. L'entreprise a besoin d'un certain nombre de documents, comme l'identification nationale, comme également du numéro impôt. Mais on apprend qu'il y a des services qui bloquent, qui gênent le travail du guichet unique. Je dirais c'est vraiment aller à l'encontre des intérêts de l'État. C'est une bataille majeure pour notre pays, parce que les objectifs sont clairs, c'est pour la croissance, c'est pour la lutte contre la pauvreté aussi, c'est pas seulement pour un prestige ou pour donner des points à X, Y ou Z. On ne devrait pas tolérer le moindre blocage de quelque nature que ce soit contre l'action que mène notamment le guichet unique et d'autres instances pour le progrès, tout simplement. Voilà. Mais je reste confiant. Je signale quand même que bon, il y a Doing Business. c'est vrai que c'est très fort, doing business, mais il y a d'autres, je dirais, thermomètres. Et au niveau de l'OADA, pour ce qui concerne en tout cas l'OADA, on a mis au point un mécanisme de calcul, d'évaluation de l'impact économique de l'OADA, et qui a été très apprécié par les chefs de l'État, les chefs d'État de l'OADA qui étaient réunis à Ouagadougou en octobre dernier, et qui ont demandé que ça continue, que ce soit périodique. Donc il faudra d'ici peu s'habituer au rapport d'impact économique donc de l'OADA, dont les résultats étaient quand même, je dirais, un peu plus satisfaisants que ceux de 2019 de l'année dernière.
Panorama économique, matière première.
Pas de transparence dans l'exploitation du cuivre et du cobalt dans le Katanga. La dénonciation est de la société civile. Elle demande à l'ITIE international de suspendre le processus de validation du rapport ITIE 2000 en RDC pour 2011 dans cette filière. Et elle indique que chaque année, la production de ces minéraux est en hausse, mais les recettes ne suivent pas du tout. Pour les Mounanga, nous en dit plus.
Selon les coordonnateurs du cadre de concertation de la société civile du Katanga, la production de cuivre en 2012 pour la RDC était de plus de 600 000 tonnes. Et l'année dernière, c'est plus de 900 000 tonnes de cuivre qui ont été produites. Cependant, souligne Jean-Pierre Mouteba, il n'y a pas eu suffisamment de recettes dans cette filière. Ainsi, il demande au conseil d'administration de l'ITIE de ne pas valider la RDC dans cette filière.
L'année dernière, nous étions à 7 000 tonnes, ça nous fait plus ou moins 7 milliards. Mais quand vous faites par rapport aux recettes, nous sommes en deçà de 1 milliard. Nous sommes autour de 800-850 millions de dollars. Donc nous sommes vraiment en deçà. Donc on ne peut pas aujourd'hui valider le pays tant que le secteur minier filière puis de cobalt n'apporte pas suffisamment et que les entreprises ne sont pas auditées selon les normes internationales.
De son côté, le coordonnateur national de l'ITIE en RDC dénonce cet agissement de la société civile du Katanga. Pour le professeur Jérémy Makdumba, le rapport ITIE 2011 a été adopté à l'unanimité par les comités exécutifs de l'ITIE auquel appartient la société civile, et d'ajouter qu'il n'appartient pas à certains individus de refuser les rapports sur base des humeurs.
Pour l'instant, la République démocratique du Congo cherche sa conformité à l'ITIE. Si elle échoue à cette conformité sur des bases objectives, on sera exclu. Mais on ne sera pas exclu parce que quelqu'un a dit nous, au Katanga, il y a encore de l'opacité dans le cuivre ou dans le cobalt. Non.
Signalons que la filière cuivre et cobalt compte plus de 80 entreprises minières, dont la plupart sont au Katanga. Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Et nous allons terminer, donc atterrir par Goma, où le redéploiement vers l'est du pays d'une partie du personnel de la MONUSCO qui était autrefois basé à l'ouest a commencé depuis maintenant un mois. Il se matérialise par l'arrivée à Goma d'une centaine de fonctionnaires internationaux. Quelle implication ce redéploiement a entraîné dans la ville de Goma? Mireille Bukassa et Gabriel Ouamea nous en parlaient jeudi dans Écoute Économie. Suivez.
Nous pouvons déjà parler des résultats de cette reconfiguration de la MONUSCO avec la ville de Goma comme l'épicentre de toutes les activités de la mission. Il y a par exemple l'Union des travailleurs du Congo, INTC Nord Kivu, qui affirme que des signaux pour résorber tant soit peu le chômage sont déjà palpables. Les économistes de leur côté abondent dans le même sens. Ils pensent qu'avec l'augmentation des effectifs de la MONUSCO à Goma, la masse monétaire en circulation doit ipso facto augmenter, même au bénéfice des commerces informels. Il n'exclut pas toutefois l'hypothèse de la surenchère dans certains cas.
En parlant des marchands informels, est-ce que ces derniers ressentent déjà un changement avec l'augmentation du nombre de ces potentiels acheteurs?
Ici, les avis sont partagés, Mireille. Le marchand des fruits, des légumes, les revendeurs de cartes d'appel, sans citer les propriétaires des maisons, eux se frottent déjà les mains. Ceux que nous avons rencontrés nous ont affirmé avoir constaté une plus-value dans leurs affaires. Ils disent que les revenus journaliers ont augmenté et la demande dédiée est de plus en plus forte. Cependant, cette reconfiguration, Mireille, pourrait avoir des retombées négatives dans d'autres secteurs. C'est notamment le secteur de l'hôtellerie et celui du logement où les prix ont légèrement grimpé. Rappelons qu'au total, 220 cadres et responsables de diverses sections de la MONUSCO affectées à l'Est ont déjà rejoint leur poste à Goma, tandis que la nouvelle vague du personnel est attendue dans les mois qui suivent.
Merci à vous Mireille Bokassa et Gabriel Wamia. Bon week-end à vous et dans ce studio nous allons retrouver le professeur Massamba, président de la commission nationale OADRDC. C'est avec lui que nous avons commenté, analysé l'actualité économique de la semaine. Cette émission qui tend déjà vers sa fin, monsieur le professeur, vous avez le mot de la fin, peut-être un petit commentaire sur ce transfert du personnel de la MONUSCO de l'ouest à l'est et peut-être nous pouvons terminer par un message par rapport à l'OADA.
S'agissant de MONUSCO, Goma, je dirais, il était temps. Cela aurait pu se réaliser bien avant. Donc, c'est bon.
Mais vaut tard que jamais.
Voilà. S'agissant de l'OADA, nous avons parlé de l'insaisissabilité des biens et droits de l'État, du démembrement, des personnes morales de droit public, autres que l'État et des entreprises publiques. Je voudrais préciser qu'il y a une exception. Les créances même de l'État restent saisissables, mais il s'agit de créances non fiscales.
Oui.
Elles restent saisissables quand elles sont bien identifiées, notamment quand on a un titre exécutoire. Je voudrais aussi, au moment où on termine cette émission, communiquer le site de la Commission nationale OADA pour permettre à qui veut avoir de plus amples renseignements sur tout ce que nous faisons, notre plan d'action pluriannuel et sur les textes de l'OADA, le traité, les actes uniformes. C'est le site www.oada-rdc.cd. Donc oada-rdc.cd. C'est notre site.
Et vous pouvez retrouver cette émission Panorama économique sur www.radiookapi.net. Merci beaucoup, professeur Massamba. Merci aussi à vous, François Kadima. Merci à vos chers auditeurs. Merci. C'est ainsi que se termine Panorama économique. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.